Vous êtes sur RTL.
17h.
RTL Matin, Thomas Hugues.
Bonjour Isabelle Choquet.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
À la une de ce matin, donc, la réforme des retraites.
Premier grand rendez-vous, le haut commissaire Jean-Paul Delevoye présente son rapport à Matignon. Objectif, un système universel à points à la place des 42 régimes actuels où l'on compte en trimestre. Elisabeth Borne installée, mais contestée, la nouvelle ministre de la Transition écologique ne fait pas l'unanimité, vous allez l'entendre. L'émotion à Avenay-Val-d'Or dans la Marne. Des centaines de personnes ont rendu hommage hier soir à l'assistante maternelle et aux trois enfants morts lundi sur un passage à Nice. À suivre également ces chasseurs d'extraterrestres qui inquiètent le Pentagone. Et puis le Tour de France, voici venir les Pyrénées qui pourraient faire perdre le maillot jaune à Julien Alaphilippe.
Et puis les taux de crédit immobilier, ils n'ont jamais été aussi bas. Alors à qui profite le crime ? Réponse, explication à 7h20. Des fleurs, des peluches, des ballons rouges en forme de cœur. Beaucoup d'émotions encore hier à Avenay-Val-d'Or, deux jours après l'accident au passage à niveau.
Une assistante maternelle et les trois enfants qu'elle transportait sont morts lundi quand leur voiture a été percutée par un TER. On attend toujours les résultats de l'enquête. Seul élément pour l'instant, visiblement la voiture a forcé le passage, la barrière était enfoncée. Dans cette petite commune champenoise, 500 personnes se sont rassemblées hier dans un square à proximité du passage à niveau pour rendre hommage aux victimes. Nicolas Burnand était présent pour RTL.
Par petits groupes, les habitants remontent à pied la route qui mène à la gare, des roses blanches à la main. Là, sur le parvis, ils entourent les familles endeuillées. Seul les cris, la douleur d'une mère ou d'un père brise un silence pesant. Harmonie allume une bougie, les larmes aux yeux.
Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mes enfants. Là, tous les jours, c'est une maman, il y avait trois enfants. Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de mots.
Des peluches et des dessins sont déposés par les enfants du village. Véronique, une mère de famille, ne pouvait pas rater cet hommage.
Oh, on est tous du village, c'est un message de soutien aux trois familles. Pour pas oublier, c'est un drame qu'elle n'a pas voulu qu'il se passe.
Symbole fort, trois jours après le drame, les barrières du passage à niveau remplacées fonctionnent à nouveau. Jean vit à une centaine de mètres, il ne pourra pas oublier ce qui s'est passé.
J'ai été père de famille, je suis toujours d'une façon, je suis grand-père. Le drame est quand même suffisamment important pour justifier un lieu de recueillement pour les Avenésiens. Nous sommes tous solidaires dans cette douleur.
Une plaque commémorative sera prochainement apposée sur la façade de la gare et le square à proximité transformé en jardin du souvenir.
Nicolas Burnand dans la Marne pour RTL. Il détenait des centaines de milliers d'images pédophiles, certaines également nécrophiles. Un homme de 28 ans a été mis en examen et écroué hier à Paris au terme d'une enquête de plusieurs mois avec une veille sur les réseaux sociaux. Ce jeune homme, bien inséré socialement, est également soupçonné d'avoir projeté un enlèvement d'enfants.
La réforme des retraites entre dans le vif du sujet. Le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye rend son rapport aujourd'hui.
Un rapport qui doit servir de base au projet de loi qui sera examiné à l'automne en Conseil des ministres pour un examen l'année prochaine au Parlement. L'objectif, c'est un système universel censé remplacer les 42 régimes existants. Un système à points où chaque euro cotisé donnera les mêmes droits à tout le monde. L'âge légal de départ est maintenu à 62 ans, mais de nombreuses questions restent en suspens. Et du coup, cette réforme suscite quelques angoisses, Armelle Lévy.
Christophe a 56 ans, il est cadre dans un grand groupe. Il touchera sa retraite à taux plein à 65 ans. Avec la réforme, il est très inquiet.
Mes angoisses, c'est que si là on me dit que les règles changent et que je serai moins indemnisé, je n'ai plus le temps d'épargner parce que j'ai encore des emprunts sur le dos. Je ne sais pas à partir de quel âge il change le système, quoi.
Alain, lui, est cadre dans l'énergie à Dunkerque. Il bénéficie des régimes spéciaux et avec ses collègues, il se pose aussi beaucoup de questions.
Et à quelle sauce on va être mangé, entre guillemets ? Quid des acquis ? Est-ce que l'âge de départ sera modifié ? Il faut qu'on ait des réponses un peu plus concrètes et qu'on sache où on va, quoi.
Christelle, elle est fonctionnaire depuis 20 ans. À 43 ans, cette professeure de collège devra travailler jusqu'à 67 ans pour toucher une retraite à taux plein.
On passe à un système à points et qui dit d'ici 30 ans le montant du point ? Est-ce qu'on va pouvoir vivre correctement avec cela ? Est-ce qu'on va travailler plus pour gagner moins ?
Le rapport de Levoye va fixer les grands principes de la réforme, mais il faudra encore en définir les modalités en tenant compte ou non des spécificités des 42 régimes de retraite actuels.
Armelle Lévy du service économie d'RTL. Le nouveau système devrait entrer en vigueur en 2025. Il y aura bien un procès pour le crash du vol Rio-Paris qui avait fait 228 morts il y a 10 ans. Procès contre Air France. La compagnie est accusée de négligence car elle n'aurait pas suffisamment formé ses pilotes. Le constructeur Airbus bénéficie d'un non-lieu. Carlos Ghosn contre-attaque. L'ancien PDG de Renault-Nissan poursuit Nissan précisément et Mitsubishi devant la justice pour rupture abusive de contrat. Il réclame jusqu'à 15 millions d'euros. Carlos Ghosn est toujours assigné à résidence à Tokyo.
Elle sera mon invitée sur RTL tout à l'heure, 7h45. Elisabeth Borne s'est installée hier au ministère de la Transition écologique.
Une passation de pouvoir express avec François de Rugy qui a démissionné après une semaine de révélations sur son train de vie. Il a évoqué une erreur, regrettée et payée au prix le plus élevé et le plus cruel. Son remplacement en tout cas n'a pas traîné. Pour éviter un nouveau feuilleton de l'été type Benalla, l'exécutif a vite fait, mais a-t-il bien fait? Le choix d'Elisabeth Borne ne fait pas l'unanimité, Vincent Derosier.
Oui, depuis sa nomination, le gouvernement vante la super technicienne Elisabeth Borne, discrète et compétente pour les uns, opérationnelle immédiatement pour les autres. Mais malgré le portrait élogieux, les critiques pleuvent. Elle est accusée d'être trop techno, son engagement écolo interroge et la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye est sur la défensive.
Je crois honnêtement que c'est faire une insulte à Elisabeth Borne que de considérer qu'on l'a prise par défaut. Le nom d'Elisabeth Borne s'est imposé assez rapidement comme une évidence, compte tenu de son parcours, compte tenu de ses qualités.
En réalité, Emmanuel Macron a voulu aller vite. Le choix d'une ministre déjà en poste lui permet d'éviter toutes les vérifications administratives. Il espère aussi tourner la page François de Rugy au plus vite. Enfin, depuis le départ de Nicolas Hulot, le président sait que le ministre de l'écologie idéal n'existe pas. Aucune personnalité n'est aussi populaire que l'ancien animateur télé. Il a fait le choix de l'efficacité, confie un proche. Une ministre efficace qui devra aussi faire preuve de souplesse pour prouver que les problématiques de transport sont compatibles avec les engagements écologiques.
Vincent Derosier du service politique d'RTL.
Elisabeth Borne, critiquée par Yannick Jadot, l'eurodéputé vert, il évoque son cynisme absolu à propos de cette ligne Perpignan-Rungis qui circule à vide depuis lundi, qui sera relancée en novembre. Il dit qu'elle aurait pu faire beaucoup plus pour que cette ligne continue de fonctionner et ne subissent pas cette éclipse, elle lui répondra tout à l'heure.
Une victoire pour l'exécutif. Le plafonnement des indemnités prud'homales pour licenciement abusif est validé par la Cour de cassation. Pas d'incompatibilité avec les textes internationaux. C'est une bonne nouvelle pour l'emploi. Voilà ce que dit la ministre du Travail.
7h07 sur RTL, une pause dans le journal. Et dans un instant, écoutez bien, des Américains sur la piste des extraterrestres.
RTL Matin.
RTL 7h08, la suite du journal Isabelle Choquet et vous Thomas Hugues.
Et comme promis, on part aux États-Unis. Les chasseurs d'extraterrestres donnent des sueurs froides à l'armée.
Oui, un appel a été lancé sur Facebook pour prendre d'assaut l'Air 51 à la recherche des petits hommes verts. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Philippe Corbet?
Oui, la zone 51, c'est un secteur interdit autour d'une base de l'US Air Force dans le désert du Nevada. C'est là que sont menés des essais secrets défense de programmes aéronautiques. La CIA n'a reconnu son existence qu'il y a 6 ans. Et depuis plusieurs décennies, elle nourrit beaucoup de fantasmes, de scénarios, de X-Files à Independence Day, mais aussi des théories conspirationnistes. Le gouvernement américain cacherait là des soucoupes volantes et même des extraterrestres. Fin juin, un compte Facebook a lancé un appel à prendre d'assaut la zone. Le 20 septembre, à 3h du matin, s'il y a beaucoup de monde, les militaires ne seront pas assez nombreux. Nous pouvons bouger plus vite que leurs balles. Allons voir les extraterrestres, clame cet appel. 1 300 000 internautes ont répondu qu'ils seraient présents. La plupart ont cliqué en y voyant simplement une blague. Mais les hôtels du coin sont submergés de demandes de réservation pour cette date. Et ça ne fait pas du tout rire l'US Air Force. La zone 51 sera défendue à tout prix. Et s'il le faut par la force, les panneaux dans le désert préviennent que ceux qui s'approchent risquent la prison ou la mort.
Philippe Corbet, correspondant d'RTL aux États-Unis. Aux États-Unis toujours, c'est confirmé, les poursuites contre Kevin Spacey sont abandonnées. L'acteur était accusé d'agression sexuelle, mais la victime présumée s'est rétractée. L'épidémie d'Ebola est désormais une urgence sanitaire mondiale. Alerte lancée par l'Organisation mondiale de la santé, 1700 personnes en sont mortes depuis l'été dernier en République démocratique du Congo.
RTL, Tour de France 2019.
Le Tour attaque la montagne aujourd'hui, 12e étape entre Toulouse et Bagnères-de-Bigorre.
Avec deux cols de première catégorie au programme, Père Sourde et la Ourquette dans 6 ans. Quel joli nom. Oui. Hier, c'est l'Australien Caleb Ewan qui s'est imposé au sprint à Toulouse. Julien Alaphilippe a préservé son maillot jaune jusqu'ici, mais c'est peut-être la fin. Quoique, écoutez ce qu'en dit le directeur du Tour, Christian Prudhomme.
Il y a une vraie question, pour moi quasiment une seule, c'est Julien Alaphilippe, sera-t-il en jaune au départ du contre-la-montre à Pau, le jour anniversaire du centenaire du maillot jaune? Voilà, c'est ça vraiment la question. Est-ce qu'il va résister sur ces deux cols-là, sachant que je ne pense pas que la bagarre au plus haut niveau se déclenche? Il y a deux ascensions, Peyre Sourde, col emblématique et ancien du Tour de France, la Ourquette dans 6 ans splendide et ascension plus récente. Je pense qu'il sera devant, ce n'est que mon avis, pas forcément autorisé, puisque je ne peux pas vraiment vous faire de pronostic en étant directeur du Tour, mais en tout cas c'est cette question-là, sera-t-il en jaune au départ du du contre-la-montre à Pau, assurément, il va tout faire pour, sachant que dans les contre-la-montre, il se débrouille de mieux en mieux. Ça, c'est son défi. C'est sûr qu'il s'est mis ça dans la tête, j'en suis certain. Pour moi, c'est la question. Va-t-il résister une journée de plus ?
Christian Prudhomme, le directeur du Tour au micro RTL de Quentin Vinet. Le Tour de France, pour beaucoup d'entre nous, il faut le dire, hein, ça se vit tranquillou devant la télé.
Ouais, vous aviez des images de mon salon hier après-midi, c'est
oui,
ça ?
Oui, je vous ai vu.
Il faut mieux pas, parce que j'étais pas dans une tenue très présentable.
Mince, pardon, excusez-moi. Bon, ça, même dans le salon, ça peut quand même être
oui,
sportif.
Ah bon, d'accord.
Figurez-vous qu'à Chambéry, des personnes malades font leur propre tour sur des vélos d'appartement tout en regardant l'étape en direct.
Oui.
C'est une façon de reprendre une activité
une
physique
idée.
Après la maladie.
C'est une bonne
et
idée.
Aussi peut-être de se prendre pour Alaphilippe ou Pinot, hein, pourquoi pas. C'est un reportage RTL signé Serge Puyot.
Il a sorti tout le monde de sa roue, le maillot jaune.
Devant la télé qui retransmet l'étape du jour, ils sont une dizaine ayant souffert d'un cancer, d'une maladie cardiaque ou d'un problème de diabète à pédaler comme les coureurs du Tour, mais sur des vélos d'appartement. Yannick, 57 ans.
Oui, ça pédale dur. On est là pour ça. On fait du sport. J'ai repris du muscle, j'ai repris du souffle. Je fais 2 km de plus chaque jour presque.
Ces malades sur la voie de la guérison se passent le relais après 20 ou 30 minutes de course. Gérard a
73 ans. C'est moi le doyen aujourd'hui. Regardez, je suis à 28 km/h. 29 même.
Ça fonce là ?
Ben oui.
3 km 300 encore pour les deux hommes de tête. Voici Thibaut Pinot.
Josiane, 54 ans, a eu un cancer. Elle arbore un beau t-shirt jaune.
Vous êtes en maillot jaune là ?
Bah bien sûr. Prête pour gagner. J'ai eu des traitements qui sont lourds. Et du coup là, ça permet justement de reprendre confiance en soi. C'est ça qui est extraordinaire quoi.
Servan a connu quelques petits soucis sur sa selle.
On avait mal aux fesses pendant au moins 3 jours. Et maintenant, ça va mieux.
Pour les coureurs, hip hip hip.
Ouais, reportage RTL.
C'est génial.
Serge Puyot, bah oui, même
bravo,
sur un vélo d'appartement.
Bravo à elle, bravo à eux. Voilà, merci beaucoup Isabelle
Choquet.
À tout à l'heure. Voilà un voyage.